Bonjour à tous, nous sommes sur Radio Jeune Actu. Il est 11h36 et aujourd'hui, nous allons parler des enjeux de l'espace Schengen et du contrôle aux frontières. Venir en France, passer les frontières. Nous verrons tout d'abord les titres de l'actualité de Ambre qui seront suivis d'une musique de Gabin en rapport avec le sujet et des explications de pourquoi l'a-t-il choisi. Ensuite, Emma nous présentera son billet. Puis, pour illustrer les enjeux, aujourd'hui, nous allons interroger différentes personnes ayant fait des reportages sur l'espace Schengen et ce que ça signifie au quotidien pour les gens qui se déplacent en Europe.
Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui les titres d'actualité sur l'espace Schengen. Tout d'abord, l'espace Schengen désigne un espace de libre circulation des personnes. Ce principe implique le libre franchissement des frontières par tout individu entré sur le territoire d'un des États membres de l'espace Schengen. Grâce à la radio RTL et France Bleu, nous pouvons voir des informations sur la guerre en Ukraine et le rôle de l'espace Schengen. Depuis la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les Ukrainiens ont le droit de rester 90 jours dans l'espace Schengen grâce à leur passeport. On nous informe aussi que certaines démarches de l'administration sont appliquées, comme le fait qu'il y ait près de 6 ans d'inscription en 10 jours. Et pour réduire l'attente, la préfecture dédie exclusivement 6 guichets tous les après-midi. Ensuite, grâce au site internet Le Monde, où on nous informe que la Roumanie est un membre de l'OTAN mais aussi de l'espace Schengen et que le 2 mars, la Roumanie n'autorise plus aucun Ukrainien sans le passeport biométrique. Un témoignage sur l'histoire de Olena, une Ukrainienne qui cherchait à se réfugier chez sa cousine en Roumanie, a franchi la frontière roumano-hongroise de Bor qui fait partie de l'espace Schengen dont la Roumanie n'en fait pas partie.
Merci Ambre pour ce titre de l'actualité. Nous allons maintenant passer à la musique de Gabin.
Parti d'un bout du monde, j'étais trop grand pour me courber. Parmi les nuages de poussière, juste au bord de la terre, j'ai marché le long des routes, le ventre à l'air dans le ruisseau. Et même que le vent nous écoute, et la pluie va tomber bientôt. Juste marcher tout droit. Ce que je fais là, moi, je sais pas. Je pense à toi depuis 1000 ans. Tellement de nuits sous la paupière, tellement de forêts abattues. Même sous la mitraille et le fer, moi je leur ai rien vendu. Même dans l'espace Schengen, ils ont pas voulu de ma peau. Ce que je fais là, moi, je sais pas. Je voulais juste marcher tout droit. Ce que je fais là, moi, je sais pas. Je pense à toi depuis mille ans.
Je passe maintenant la parole à Gabin qui va nous expliquer pourquoi a-t-il choisi cette musique.
Donc cette musique, elle a été composée par le chanteur Raphaël. Le titre est Schengen, il est paru en 2006. Donc cette musique, elle est tirée de l'album Caravane. Donc dans cette musique, il se met dans la peau d'une personne qui n'a pas les papiers. Et c'est une façon d'évoquer la détresse des sans-papiers qui tentent d'entrer en Europe.
Merci Gabin. Maintenant, nous allons écouter le billet de Emma.
Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, le titre d'actualité est les enjeux de Schengen et du contrôle aux frontières, venir en Europe, passer la frontière. Donc, nous allons répondre à la problématique suivante, qui est quels sont les enjeux de l'espace Schengen et du contrôle des frontières. Donc tout d'abord, l'espace Schengen est un espace de libre circulation entre les frontières des États qui constituent l'espace Schengen, afin de faciliter les trajets de voyageurs. Il englobe les pays de l'Union européenne, sauf la Bulgarie, la Chypre, la Croatie, l'Irlande, la Roumanie et la Grande-Bretagne, mais englobe aussi des pays non membres de cette union, comme l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Le village luxembourgeois de Schengen a donné son nom à une réorganisation générale du contrôle des personnes aux frontières en Europe. Il est situé au point de contact de l'Allemagne, de la France et des trois États de Benelux. Ces derniers incluent la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg où se trouve Schengen. Les représentants des cinq États s'y réunissent en juin 1985 et en juin 1990 pour signer deux accords internationaux. Ils devaient supprimer les contrôles à certaines frontières intérieures de l'Union européenne et renforcer ceux aux frontières extérieures. Afin de saisir les enjeux du contrôle aux frontières en Europe, il est nécessaire de revenir aux origines et à la conclusion des accords. Cela permet de comprendre les pratiques de franchissement des frontières extérieures de l'Union européenne et la récente crise migratoire. Donc, quels sont les outils de contrôle de cet espace, de la frontière Schengen? Donc, tout d'abord, nous avons la Convention de Schengen qui organise l'ouverture des frontières entre les pays européens signataires. Le Conseil des ministres décide de la majorité qualifiée et la procédure d'adoption des actes en matière de visa, asile et immigration, le système juridique de l'espace Schengen. Ils sont le plus consolidés par le développement de la coopération juridique et policière avec la création du SIS, le système d'information Schengen. Opérationnel depuis 1995, la mise en place des règles communes, conditions d'entrée, visa et demande d'asile, le maintien de contrôles volants effectués par les autorités de la police ou les douanes pour lutter contre le terrorisme et le développement de la criminalité organisée. La création en 2004 de Frontex, agence pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures de l'Union européenne. Cette agence, qui concerne l'ensemble de l'Union européenne, n'est pas seulement l'espace Schengen. A été transformée en 2016 en agence européenne de garde frontières et de garde côtes, dotée d'une force de réserve de 1500 gardes. Cependant, la Commission européenne a proposé une réforme du code des frontières. Donc, la limitation du nombre de points de passage frontaliers et l'intensification de la surveillance des frontières, d'asile à la frontière. Aussi de prolonger le délai d'enregistrement des demandes d'asile jusqu'à 4 semaines et examiner les demandes d'asile à la frontière, à l'exception de celles relatives à des cas médicaux. Nous avons aussi l'autorisation de l'accès des organisations humanitaires auprès des personnes réfugiées. Aussi la possibilité de mettre en place une procédure d'urgence pour la gestion des retours. Et enfin, l'intervention sur demande des agences de l'Union européenne. Malgré ça, il y a des limites à ces passages de frontières extérieures. En effet, toute personne qui franchit les frontières extérieures doit faire l'objet d'un minimum de contrôle, même si les voyageurs qui ne sont originaires ni de l'Union européenne, ni de l'espace économique européen, ni de Suisse, doivent généralement faire l'objet d'un contrôle approfondi. Les personnes qui franchissent majoritairement ces frontières sont des voyageurs et des touristes, non des migrants. On estime qu'en 2025, 300 millions de voyageurs qui ne viennent pas de l'espace Schengen franchiront la frontière extérieure. Nous avons aussi le problème de l'immigration. En effet, les pays appartenant à l'espace Schengen qui reçoivent le plus de migrants sont l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne. En 2017, ils ont accueilli 1,25 million de migrants. L'Italie recevait essentiellement des migrants d'Afrique du Nord. Cependant, depuis 2016, il y a de nouveaux flux qui proviennent par exemple du Proche-Orient, de la Corne d'Afrique ou du Nigeria. En raison de ces migrations, l'espace Schengen est devenu un espace de violence. En effet, du barbelé a été placé à la frontière d'Espagne. Il y a également des utilisations d'armes à feu. Et afin de franchir illégalement ces frontières, certains migrants font appel à des passeurs pour éviter les contrôles. Le prix de cet acte va de 3 000 euros à 6 000 euros par personne. Nous pouvons donc en déduire que l'espace Schengen est un espace de libre circulation où les voyageurs peuvent effectuer des déplacements. Cependant, il reste malgré tout des contrôles vis-à-vis de ces frontières. De plus, le problème de l'immigration rajoute des inconvénients, même si il y a plus de voyageurs qui franchissent les frontières extérieures.
Merci beaucoup Emma. Maintenant nous allons donc passer aux différents reportages et nous allons commencer par mon propre reportage dans lequel j'ai assisté à une discussion entre une avocate et un ressortissant ukrainien dans lequel elle lui explique quelles sont les règles qui s'appliquent à son déplacement car il souhaite émigrer au Royaume-Uni en passant par la Pologne, l'Allemagne puis la France. Donc déjà il faut savoir que le Royaume-Uni ne fait pas partie de l'espace Schengen. Donc ce n'est pas un espace de libre circulation des personnes. Donc il faut un titre de séjour.
Il faut un séjour n'excédant pas 90 jours, puisqu'ils n'ont pas de visa. On peut voir que depuis plus d'une semaine, la ville frontière de Calais refuse des centaines d'Ukrainiens, enfin voit des centaines d'Ukrainiens refoulés par les Britanniques, puisqu'ils n'ont pas de visa. On peut citer ce que dit Louis Lefranc, le préfet du Pas-de-Calais. Il dit « Depuis le début de la guerre, 589 Ukrainiens arrivent à Calais ». On peut également rajouter que la frontière de la Pologne, il y a beaucoup d'embouteillages et un froid glacial.
Nous allons maintenant passer au groupe de Hugo, Arnaud et Maë, dans lequel Robin sera le journaliste.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon reportage. J'ai entendu une conversation entre un agent de l'ambassade de France à Londres qui a expliqué à un retraité britannique qui souhaite rejoindre ses enfants en France les nombreuses conditions.
Oui, bonjour, je suis donc retraité. J'aimerais pouvoir aller en France depuis l'Angleterre pour un séjour pour pouvoir voir mes enfants.
Oui, bonjour. Je ne veux pas accéder à votre requête, car depuis le 12 février 2022, tous les voyageurs de plus de 12 ans doivent disposer d'un motif impérieux pour se rendre en France depuis le Royaume-Uni. Mais si, après la levée du motif impérieux, vous pourrez aller en France si vous avez un visa à durée limitée, un passeport et que vous présentez que vous êtes vacciné ou que vous montrez un test négatif de moins de 24 heures et ensuite que vous inscriviez sur notre plateforme numérique.
Merci.
Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer au groupe de Pommeline, Titouan et Gabin, dans lequel Gabin sera lui aussi le journaliste.
Donc, bonjour, je suis à Varsovie avec le directeur de l'agence d'intérim et une travailleuse polonaise qui souhaite avoir plus d'informations sur les règles qui lui permettent d'effectuer une mission de travail sur le territoire français. Donc je leur cède la parole.
Bonjour, je suis ici aujourd'hui parce que je souhaite effectuer une mission de travail en France afin de bénéficier de meilleures conditions de travail. Pouvez-vous me donner les informations nécessaires à la réalisation de mon projet, s'il vous plaît ?
Bonjour, donc pour commencer, une mission de travail consiste pour une entreprise à envoyer une personne en mission temporaire dans un autre État de l'Union européenne. Je vais donc vous exposer les conditions et formalités obligatoires à respecter et vous informer des dispositions prévues par le droit du travail français dans un certain nombre de matières. Comme vous ne vous installez pas durablement, vous n'intégrez donc pas le marché du travail de l'État français. Premièrement, pour les salariés détachés dans le transport routier, une réglementation spécifique est applicable. Il existe aussi d'autres règles et formalités, notamment cela relative à la législation applicable en matière de sécurité sociale.
Alors comment cela se passe-t-il quant à la question de la rémunération ?
Le salarié détaché doit percevoir la rémunération prévue par le Code du travail français ou par la convention collective étendue applicable à la branche.
Est-ce que vous pouvez me dire quel est le temps que je peux passer à peu près en mission de travail ?
Les entreprises qui détachent des salariés en France doivent respecter les règles françaises fixées par la loi, le règlement ou les conventions collectives étendues dans leur branche d'activité en matière de durée du travail, de repos compensateur, de jours fériés, de congés annuels payés, de durée du travail et de travail de nuit des jeunes travailleurs.
Et pour ce qui est de la sécurité sociale ?
La santé et la sécurité au travail en tant qu'employeur effectuant une prestation de service en France. Votre entreprise est donc, par application du Code du travail, responsable de la protection de la santé et de la sécurité de vos salariés détachés pour cette mission. Les dispositions relatives à la surveillance médicale avant le début de la mission et pendant, dont les dépenses sont prises en charge par l'employeur, à ce titre, votre entreprise doit mettre en place des mesures de prévention adaptées aux risques auxquels les salariés peuvent être exposés.
Je suppose aussi qu'il faut avoir un certain nombre de papiers. Quels sont-ils ?
Vous devez détenir une autorisation de travail, appelée aussi permis de travail. Sinon, vous ne pouvez pas être embauché. L'autorisation de travail peut prendre la forme soit d'un visa ou d'un titre de séjour, soit d'un document distinct du document de séjour. Des sanctions sont prévues en cas d'emploi d'un travailleur illégal.
Merci de vos renseignements, monsieur l'agent. Je vous tiens informé quant à l'avancée de mon projet.
Merci à vous. Afin de continuer ce reportage, je vais céder la parole à Olivia, Loane et Océane, dans laquelle elle sera la journaliste.
Bonjour, donc j'ai pu rencontrer une artiste américaine et son agent qui souhaite entamer une tournée dans le monde, mais notamment dans les pays membres de l'espace Schengen. Elle se demandait quelles sont les démarches à faire pour y séjourner temporairement. Loane et Olivia vont donc répondre à cette question.
Donc je me demandais comment cela va-t-il se passer en France au niveau sanitaire.
Concernant la France pour les mesures sanitaires, comme vous avez plus de 2 ans, il faut un test viral négatif, donc un test antigénique ou un test PCR, qui est réalisé au plus tard 1 jour avant le voyage. Et vous devez aussi remplir l'attestation de CDC, donc Centers for Disease Control and Prevention, qui signifie en français Centre de contrôle et de prévention des maladies. Donc la première section de cette attestation qui stipule soit un résultat au test négatif avant le départ, soit une attestation de guérison de la COVID-19 ou encore une exemption humanitaire, c'est-à-dire être exempté du test tel que déterminé par les CDC et documenté par une missive officielle de l'administration américaine.
Et donc également en France, comment par rapport au visa, comment je peux faire ?
Au niveau du visa en France, les titulaires du passeport américain n'ont pas besoin de visa si leur séjour en France ne dépasse pas 90 jours sur une période de 180 jours. Par contre, les titulaires de passeport américain dont le séjour en France est supérieur à 90 jours doivent tous avoir un visa. Si vous êtes un touriste américain ou canadien ou australien, vous pouvez aussi voyager sans visa dans tout le Royaume-Uni. Donc vous m'avez posé la question pour la France, mais c'est valable aussi pour le Royaume-Uni. Mais à condition que vous ayez un passeport valide et que le motif de votre visite respecte les règles d'immigration.
Donc vous m'avez expliqué pour le visa en France et au Royaume-Uni, mais par rapport encore au contexte sanitaire, comment je peux faire au Royaume-Uni? Comment ça va se passer?
Selon le site officiel du gouvernement du Royaume-Uni, toutes les restrictions de voyage de la COVID-19 seront levées, donc elles sont levées maintenant, y compris le formulaire de localisation des passagers, nommé PLF, pour les arrivées au Royaume-Uni, ainsi que tous les tests pour les passagers qui ne sont pas considérés comme vaccinés. Ce changement supprime donc la nécessité pour les passagers non vaccinés de passer un test avant le départ et un test le deuxième jour après l'arrivée.
Donc, après toutes ces informations, ça veut dire que comme les restrictions ont été levées, je vais pouvoir partir prochainement?
Oui, c'est ça, c'est bien le cas.
Merci à vous. C'est maintenant au tour de Léonie, Nino et Wycliffe qui sera le journaliste.
Nous avons ici capté un échange entre un adulte et son petit cousin sur le travail transfrontalier, plus précisément avec une infirmière en Suisse.
Léonie, dis-moi, toi qui travailles en tant qu'infirmière en Suisse, pour quelles raisons et quels en sont les avantages ?
J'ai choisi de travailler en Suisse en tant qu'infirmière, notamment, car je peux profiter du salaire élevé de ce pays. Et le prix est moins cher qu'en France, la qualité de vie est meilleure. Il y a aussi notamment de meilleures infrastructures grâce donc à la richesse du pays. Et les revenus en Suisse sont moins importants par les impôts, notamment comme en France, ils sont plus élevés. Mais par contre, il y a aussi des inconvénients, notamment le prix du transport est nettement plus élevé qu'en France. Dans les transports en commun, par exemple, il y a aussi, nous pouvons aussi subir en tant qu'infirmiers une pression sociale vis-à-vis des employeurs suisses.
Merci beaucoup. Et pour finir au sujet de ces reportages, nous allons écouter Eva, Sarah et Elise.
Bonjour, je suis actuellement à Toulouse avec Eva, directrice d'une agence de voyage, et Sarah, une jeune Française qui souhaiterait voyager aux États-Unis et qui demande donc quelques conseils à Eva. Je vous laisse avec leur discussion.
Donc effectivement, enchantée Eva, donc j'aimerais avoir quelques informations par rapport au voyage aux États-Unis. Au niveau de mon assurance, est-ce que je suis toujours assurée là-bas ?
À Alors, si vous présentez une maladie qui doit être soignée par des médicaments quotidiens, vous devez amener l'ordonnance et souscrire à une assurance supplémentaire de celle que vous avez en France. Vous pouvez voir cela avec votre assurance maladie, s'il y a par exemple une assistance de rapatriement dans le pays en cas de problème. Et aussi, n'oubliez pas, par rapport à tous les frais que vous devrez effectuer là-bas, qu'ils soient médicamenteux ou pas, de voir avec votre banque et de changer de monnaie.
Et par rapport aux restrictions du Covid-19, est-ce que je peux quand même voyager aux États-Unis étant donné que j'ai une exemption de vaccination ?
Alors, comme vous l'avez précisé, si vous avez une exemption, vous devez apporter une justification par document et un test antigénique ou PCR négatif de moins de 24 heures, plus une attestation de la CDC complétée, comme d'ailleurs en a parlé Louane tout à l'heure. Et sinon, pour les autres, je le précise, vous devez être obligatoirement vacciné avec la deuxième dose.
Merci à tous. Il est 11h57 et c'est la fin de...